Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les carnets du Scarabée Géologie est un guide illustré d'initiation à la géologie conçu par Caroline Sanchez et Stéphane Niveau dans la collection Les carnets du Scarabée. Publié par Tana, cet ouvrage de format compact ne cherche pas à remplacer un manuel universitaire ni un atlas exhaustif des roches. Son objectif est plutôt de donner au lecteur amateur une méthode pour interpréter ce qu'il voit autour de lui. Les auteurs, également guides naturalistes, partent des paysages ordinaires ou remarquables de France, des plaines aux littoraux, des canyons aux massifs volcaniques, afin d'introduire les grands repères nécessaires à leur lecture. Le livre associe explications accessibles, illustrations, exercices, pistes d'observation et conseils pour les sorties. Il aborde aussi la possibilité de pratiquer la géologie en milieu urbain, notamment à travers les matériaux et les traces visibles dans les centres historiques. Sa proposition centrale est de transformer une promenade, une randonnée ou un regard porté sur son lieu de vie en enquête raisonnée sur l'histoire de la Terre. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, passer du paysage contemplé au paysage interprété, le fil directeur du guide consiste à apprendre à ne pas considérer le paysage comme un simple décor. Une vallée, une falaise, une plage, un relief volcanique ou une plaine deviennent des ensembles d'indices dont l'observation permet de formuler des hypothèses. Cette orientation est importante pour des débutants, car elle évite de réduire la géologie à une accumulation de définitions sur les minéraux, les roches ou les périodes anciennes. Les auteurs proposent, au contraire, de partir de formes visibles et de questions concrètes: quelle est la disposition des couches, quelle matière compose un affleurement, quels processus ont pu modeler ce relief et comment l'eau, l'érosion ou la dynamique interne y ont-elles contribué. La diversité des paysages français fournit un cadre familier pour comprendre que les terrains conservent des traces de transformations très lentes ou d'événements plus marqués. Cette lecture ne prétend pas livrer une explication définitive à partir d'un seul détail. Elle enseigne une démarche observée, comparée, située et reliée les indices entre eux. Le bénéfice intellectuel est de rendre plus lisible l'organisation d'un territoire. Le lecteur comprend ainsi que la forme actuelle des paysages résulte d'une histoire géologique, mais aussi de processus toujours actifs à la surface de la Terre. Deuxièmement, reconnaître les grandes familles de roches sans viser une expertise illusoire, l'identification des roches constitue une application centrale du livre. Mais elle est traitée à une échelle adaptée au public amateur. L'ouvrage vise la reconnaissance de familles de roches et non l'expertise exhaustive qui demanderait des analyses de laboratoire, des lames minces ou une connaissance très étendue de la minéralogie. Cette distinction donne de la rigueur à la démarche. Sur le terrain, la couleur seule est rarement suffisante. Il faut examiner la texture, la taille des éléments, l'aspect cristallin ou stratifié, la cohésion, le contexte de découverte et les relations avec les roches voisines. Les outils de raisonnement et les logigrammes signalés dans les retours de lecture aident à organiser ces observations plutôt qu'à deviner un nom. Le lecteur peut ainsi mieux distinguer les grandes catégories liées aux mécanismes de formation, tout en comprenant que l'identification reste parfois provisoire. Cette prudence est utile, car elle relie l'objet trouvé à son origine. Une roche n'est pas seulement un caillou à étiqueter, mais le produit d'une sédimentation, d'une cristallisation, d'une transformation ou d'une altération. Le guide fait donc de la reconnaissance une porte d'entrée vers les processus géologiques. Il offre des repères immédiatement mobilisables lors d'une sortie, sans donner l'impression trompeuse qu'une photographie ou un critère isolé suffit toujours à conclure. Troisièmement, une méthode de terrain structurée par les questions et les exercices. La spécificité pratique de Les carnets du Scarabée Géologie réside dans la place accordée à l'enquête de terrain. Les auteurs ne se limitent pas à présenter des notions, ils fournissent des pistes de réflexion, des exercices et des conseils destinés à préparer ou prolonger une randonnée. Cette organisation convient à une discipline dans laquelle l'observation directe joue un rôle majeur. Avant une sortie, le lecteur peut apprendre à choisir un lieu, à anticiper les éléments qu'il pourra y relever et à emporter le matériel simple nécessaire à une observation attentive. Sur place, il est invité à décrire ce qui est réellement visible avant d'être interprété. Cette séparation entre constat et hypothèse limite les conclusions hâtives, fréquentes lorsque l'on débute. Après l'observation, les illustrations et les explications permettent de replacer les indices dans une lecture plus générale du relief et des roches. Les exercices ont ainsi une fonction pédagogique précise, ils transforment une information reçue en compétence d'analyse. Le format de 136 pages impose une sélection, mais cette concision est cohérente avec la vocation du livre. Il sert de compagnon d'initiation et de support de pratique plutôt que de somme encyclopédique. Les lecteurs désirant identifier de façon très fine des espèces minérales, cartographier un secteur ou approfondir la stratigraphie devront le compléter par des guides spécialisés. Pour commencer à raisonner sur le terrain, la méthode proposée est en revanche particulièrement pertinente. Quatrièmement, elle image comme outil de comparaison et non comme simple ornement. Elle abondance des images est un élément important de la pédagogie du livre. En géologie, de nombreux phénomènes sont difficiles à saisir par une définition isolée, car ils impliquent des volumes, des échelles de temps très longues et des relations spatiales entre roches, reliefs et structures. Des schémas, photographies et exemples visuels permettent de comparer ce que le lecteur voit avec des formes ou des textures expliquées dans le guide. Ils soutiennent notamment l'apprentissage des grandes familles de roches et la lecture des indices paysagers. Leur intérêt ne se réduit donc pas à rendre l'ouvrage agréable, ils aident à passer d'un vocabulaire abstrait à des critères observables. Les avis disponibles soulignent la clarté des diagrammes, la présence de photographies en couleur et le caractère facile à transporter du volume. Ces qualités favorisent une consultation en situation, face à un affleurement ou au cours d'une promenade. L'image doit cependant être utilisée comme un repère, non comme une preuve automatique. Deux roches peuvent présenter des aspects proches, et l'éclairage, l'altération ou la distance modifient ce qui est visible. Le guide semble précisément privilégier le croisement entre l'image, la question posée et le contexte géologique. Cette approche développe une compétence de comparaison raisonnée. Elle rend l'initiation moins intimidante tout en préservant l'idée essentielle que l'interprétation géologique dépend d'un ensemble d'observations, et non d'une ressemblance superficielle. En dernier lieu, découvrir une géologie de proximité, y compris dans les centres urbains, le livre élargit le terrain de pratique au-delà des sites naturels réputés. Son attention à la géologie urbaine rappelle qu'il est possible de développer le regard géologique dans les centres-villes historiques et dans les espaces quotidiens. Les pierres de construction, les revêtements et certains éléments architecturaux rendent souvent visibles des matériaux issus de contextes géologiques variés. Cette perspective est particulièrement utile pour les lecteurs qui vivent loin des montagnes, des falaises ou des carrières accessibles. Elle abaisse le seuil d'entrée dans la discipline, l'observation peut commencer près de chez soi, avant même une randonnée. Elle invite aussi à faire le lien entre ressources géologiques, choix des matériaux et histoire locale, sans confondre l'étude d'une pierre déplacée avec l'étude du sous-sol du lieu où elle se trouve. Cette nuance importe une roche intégrée à un monument renseigne d'abord sur sa provenance et son usage, alors qu'un affleurement renseigne directement sur la géologie locale. En intégrant ces deux situations, les auteurs montrent différentes manières d'apprendre à regarder. Leur démarche est aussi liée à l'idée qu'une meilleure connaissance d'un milieu peut soutenir son attention et sa protection. Le livre ne se présente pas comme un traité sur les politiques environnementales, mais il donne des bases concrètes pour comprendre la valeur géologique des paysages et la matérialité souvent ignorée des environnements urbains. En conclusion, les carnets du Scarabée Géologie s'adressent prioritairement aux adultes, adolescents accompagnés et familles qui souhaitent débuter sans disposer d'une formation scientifique spécialisée. Il conviendra particulièrement aux randonneurs, naturalistes amateurs, enseignants en quête de supports d'observation, curieux des paysages et lecteurs désireux de comprendre les roches rencontrées près de chez eux. Son apport pratique est de fournir une manière de regarder, d'écrire les indices, poser des questions pertinentes, reconnaître des catégories de roches avec prudence et relier un détail à l'organisation générale d'un paysage. Son apport intellectuel est de faire sentir que la géologie est une science de relation entre matériaux, reliefs, processus et temps long. Par rapport à un manuel général de sciences de la Terre, le livre se distingue par son format accessible, son orientation vers la sortie de terrain et son recours systématique aux exemples visuels. Par rapport à un guide d'identification plus dense, il privilégie moins l'inventaire détaillé que l'acquisition d'une méthode d'observation. Le volet consacré à la géologie urbaine renforce également son originalité, en montrant que l'apprentissage ne dépend pas exclusivement de sites naturels exceptionnels. Cette position implique une limite claire les lecteurs déjà avancés ou ceux qui cherchent une détermination précise des minéraux. Des fossiles et des structures régionales auront besoin de références complémentaires. Mais cette limite est aussi une force éditoriale. En 136 pages, l'ouvrage privilégie une initiation cohérente, concrète et transportable, capable de faire passer le lecteur de la curiosité devant un paysage à une première analyse argumentée de son histoire géologique. Si vous souhaitez soutenir Caroline Sanchez, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.